Chapitre 13. La saison allait en se détraquant. Tout se confondait cette année-là. Après les rafales et les brumes, des ciels chauffés à blanc, tels que des plaques de tôle, sortirent de l'horizon. En deux jours, sans aucune transition, au froid humide des brouillards, au ruissellement des pluies, succéda une chaleur torride, une atmosphère d'une lourdeur atroce. Attisé comme par de furieux ringards, le soleil s'ouvrit en gueule de four, dardant une lumière presque blanche qui brûlait la vue. Une poussière de flammes s'éleva des routes calcinées, grillant les arbres secs, rissolant les gazons jaunis. La réverbération des murs peints au LED chaud, les foyers allumés sur le zinc des toits et sur les vitres des fenêtres aveugla. Une température de fonderie en chauffe pesa sur le logis de Des Esseintes. À moitié nu, il ouvrit une croisée, reçut une bouffée de fournaise en pleine face. La salle à manger où il se réfugia était ardente et l'air raréfié bouillait. Il s'assit, désolé, car la surexcitation qui le soutenait depuis qu'il se plaisait à rêvasser en classant ses livres avait pris fin. Semblable à tous les gens tourmentés par la névrose, la chaleur l'écrasait. L'anémie, maintenue par le froid, reprenait son cours, affaiblissait le corps débilité par d'abondantes sueurs. La chemise collée au dos trempé, le périnée humide, les jambes et les bras moites, le front inondé et découlant en larmes salées le long des joues, Des Esseintes gisait anéanti sur sa chaise. À ce moment, la vue de la viande déposée sur la table lui souleva le cœur. Il prescrivit qu'on la fît disparaître, commanda des œufs à la coque, tenta d'avaler des mouillettes, mais lui barrèrent la gorge. Des nausées lui venaient aux lèvres. Il but quelques gouttes de vin qui lui piquèrent comme des pointes de feu l'estomac. Il s'étancha la figure. La sueur, tout à l'heure tiède, fluait maintenant froide le long des tempes. Il se prit à sucer quelques morceaux de glace pour tromper le mal de cœur. Ce fut en vain. Un affaissement sans borne le coucha contre la table. Manquant d'air, il se leva, mais les mouillettes avaient gonflé et remontaient lentement dans le gosier qu'elles obstruaient. Jamais il ne s'est senti aussi inquiet, aussi délabré, aussi mal à l'aise. Avec cela, ses yeux se troublèrent. Il vit les objets doubles, tournant sur eux-mêmes. Et bientôt les distances se perdirent. Son verre lui parut à une lieue de lui. Il se disait bien qu'il était le jouet d'illusions sensorielles, et il était incapable de réagir. Il fut s'étendre sur le canapé du salon, mais alors un tangage de navire en marche le berça, et le mal de cœur s'accrut. Il se releva, et résolut de précipiter par un digestif ces œufs qui l'étouffaient. Il regagna la salle à manger et mélancoliquement se compara dans cette cabine aux passagers atteints du mal de mer. Il se dirigea en trébuchant vers l'armoire, examina l'orgue à bouche, ne l'ouvrit point, et saisit sur le rayon plus haut une bouteille de bénédictine qu'il gardait à cause de sa forme qui lui semblait suggestive, en pensée tout à la fois doucement luxurieuse et vaguement mystique. Mais, pour l'instant, il demeurait indifférent, regardant d'un œil atone cette bouteille trapue d'un verre sombre, qui, à d'autres moments, évoquait en lui les prieurés du Moyen-Âge, avec son antique panse monacale, sa tête et son col vêtus d'une capuche de parchemin, son cachet de cire rouge écartelé de 3 mitres d'argent sur champ d'azur, et scellé au goulot ainsi qu'une bulle par des liens de plomb, avec son étiquette écrite en un latin retentissant sur un papier jauni et comme déteint par les temps, liquor monacorum benedictorum abbatiae fiscanensis. Sous cette robe tout abbatiale, signée d'une croix et des initiales ecclésiastiques D.O.M., serrée dans ses parchemins et dans ses ligatures, de même qu'une authentique charte, dormait une liqueur couleur de safran d'une finesse exquise. Elle distillait un arôme quintessentié d'angélique et d'hysope, mêlé à des herbes marines, aux iodes et aux bromes, alanguis par des sucres, et elle stimulait le palais avec une ardeur spiritueuse, dissimulée sous une friandise toute virginale, toute novice, flattait l'odorat par une pointe de corruption, enveloppée dans une caresse tout à la fois enfantine et dévote. Cette hypocrisie qui résultait de l'extraordinaire désaccord établi entre le contenant et le contenu, entre le contour liturgique du flacon et son âme toute féminine, toute moderne, l'avait jadis fait rêver. Enfin, il avait longuement aussi songé, devant cette bouteille, au moine même qui la vendait, au bénédictin de l'abbaye de Fécamp, qui, appartenant à cette congrégation de Saint-Maur, célèbre par ses travaux d'histoire, militait sous la règle de Saint-Benoît, mais ne suivait point les observances des moines blancs de Cîteaux et des moines noirs de Cluny. Invinciblement, il lui apparaissait, ainsi qu'au Moyen-Âge, cultivant des simples, chauffant des cornues, résumant dans des alambics de souveraines panacées d'incontestables magistères. Il but une goutte de cette liqueur et il éprouva, durant quelques minutes, un soulagement, mais bientôt ce feu qu'une larme de vin avait allumé dans ses entrailles se raviva. Il jeta sa serviette, revint dans son cabinet, se promena de long en large. Il lui semblait être sous une cloche pneumatique où le vide se faisait à mesure et une défaillance d'une douceur atroce lui coulait du cerveau par tous les membres. Il se roidit et n'y tenant plus, pour la première fois peut-être depuis son arrivée à Fontenay, il se réfugia dans son jardin et s'abrita sous un arbre d'où tombait une rondelle d'ombre. Assis sur le gazon, il regarda d'un air hébété les carrés de légumes que les domestiques avaient plantés. Il les regardait et ce ne fut qu'au bout d'une heure qu'il les aperçut, car un brouillard verdâtre flottait devant ses yeux et ne lui laissait voir, comme au fond de l'eau, que des images indécises dont l'aspect et les tons changeaient. À la fin, pourtant, il reprit son équilibre. Il distingua nettement des oignons et des choux. Plus loin, un champ de laitue et au fond, tout le long de la haie, une série de lys blancs immobiles dans l'air lourd. Un sourire lui plissa les lèvres, car subitement, il se rappelait l'étrange comparaison du vieux Nicandre qui assimilait, au point de vue de la forme, le pistil des lys au génitoire d'un âne. Et un passage d'Albert le Grand lui revenait également, celui où ce thaumaturge enseigne un bien singulier moyen de connaître en se servant d'une laitue si une fille est encore vierge. Ses souvenirs l'égayèrent un peu. Il examina le jardin, s'intéressant aux plantes flétries par la chaleur et aux terres ardentes qui fumaient dans la pulvérulence embrasée de l'air. Puis, au-dessus de la haie, séparant le jardin en contrebas de la route surélevée montant au fort, il aperçut des gamins qui se roulaient en plein soleil dans la lumière. Il concentrait son attention sur eux quand un autre, plus petit, parut, sordide à voir. Il avait des cheveux de varech remplis de sable, deux bulles vertes au-dessous du nez, des lèvres dégoûtantes, entourées de crasses blanches par du fromage à la pie écrasé sur du pain et semé des hachures de ciboule verte. Des esseintes humalaires, un piqua, une perversion s'empara de lui. Cette immonde tartine lui fit venir l'eau à la bouche. Il lui sembla que son estomac, qui se refusait à toute nourriture, digérerait cet affreux mets et que son palais en jouirait comme d'un régal. Il se leva d'un bond, courut à la cuisine, ordonna de chercher dans le village une miche, du fromage blanc, de la ciboule, prescrivit qu'on lui apprêtât une tartine absolument pareille à celle que rongeait l'enfant, et il retourna s'asseoir sous son arbre. Les marmots se battaient maintenant. Ils s'arrachaient les lambeaux de pain qu'ils s'enfonçaient dans les joues en se suçant les doigts. Des coups de pied et des coups de poing pleuvaient, et les plus faibles foulés par terre ruaient et pleuraient, le dernier raboté par les gaillasses. Ce spectacle ranima des Hyacinthes. L'intérêt qu'il prit à ce combat détournait ses pensées de son mal. Devant l'acharnement de ces méchants mêmes, il songea à la cruelle et abominable loi de la lutte pour l'existence, et bien que ses enfants fussent ignobles, il ne put s'empêcher de s'intéresser à leur sort et de croire que mieux eût valu pour eux que leur mère n'eût point mis bas. En effet, c'était de la gourme, des coliques et des fièvres, des rougeoles et des griffes, dès le premier âge, des coups de bottes et des travaux abétissants vers les 13 ans, des duperies de femmes, des maladies et des cocuages de l'âge d'homme. Et c'était aussi vers le déclin des infirmités et des agonies dans un dépôt de mendicité ou dans un hospice. Et l'avenir était en somme égal pour tous, et ni les uns ni les autres, s'ils avaient eu un peu de bon sens, n'auraient pu s'envier. Pour les riches, c'était dans un milieu différent, les mêmes passions, les mêmes tracas, les mêmes peines, les mêmes maladies, et c'était aussi les mêmes jouissances médiocres, qu'elles fussent alcooliques, littéraires ou charnelles. Il y avait même une vague compensation à tous les maux, une sorte de justice qui rétablissait l'équilibre du malheur entre les classes en dispensant plus aisément les pauvres des souffrances physiques qui accablaient plus implacablement le corps plus débile et plus émacié des riches. Quelle folie que de procréer des gosses, pensaient les Hyacinthes. Et dire que les ecclésiastiques qui ont fait vœu de stérilité ont poussé l'inconséquence jusqu'à canoniser saint Vincent de Paul parce qu'il réservait pour d'inutiles tortures des innocents. Grâce à ces odieuses précautions, celui-là avait reculé pendant des années la mort d'êtres inintelligents et insensibles, de telle façon que devenu plus tard presque compréhensif et en tout cas aptes à la douleur, ils puissent prévoir l'avenir, attendre et redouter cette mort dont ils ignoraient naguère jusqu'au nom, quelques-uns même l'appelaient, en haine de cette condamnation à l'existence qui leur infligeait en vertu d'un code théologique absurde. Et depuis que ce vieillard était décédé, ses idées avaient prévalu. On recueillait des enfants abandonnés au lieu de les laisser doucement périr sans qu'ils s'en aperçussent. Et cependant, cette vie qu'on leur conservait devenait de jour en jour plus rigoureuse et plus aride. Sous prétexte de liberté et de progrès, la société avait encore découvert le moyen d'aggraver la misérable condition de l'homme en l'arrachant à son chez-lui, en l'affublant d'un costume ridicule, en lui distribuant des armes particulières, en l'abrutissant sous un esclavage identique à celui dont on avait jadis affranchi par compassion les nègres, et tout cela pour le mettre à même d'assassiner son prochain sans risquer l'échafaud, comme les ordinaires meurtriers qui opèrent seuls sans uniforme, avec des armes moins bruyantes et moins rapides. Quelle singulière époque, se disaient les Hyacinthes. que celle qui, tout en invoquant les intérêts de l'humanité, cherche à perfectionner les anesthésiques pour supprimer la souffrance physique et prépare en même temps de tels stimulants pour aggraver la douleur morale. Ah, si jamais au nom de la pitié, l'inutile procréation devait être abolie, mais c'était maintenant. Mais ici encore, les lois édictées par des Portalis ou des Homais apparaissaient féroces et étranges. La justice trouvait toute naturelle les fraudes en matière de génération. C'était un fait reconnu, admis. Il n'était point de ménage, si riche qu'il fût, qui ne confia ses enfants à la lessive ou qui n'usa d'artifices qu'on vendait librement et qui ne serait d'ailleurs venu à l'esprit de personne de réprouver. Et pourtant, si ses réserves ou si ses subterfuges demeuraient insuffisants, si la fraude ratait et qu'afin de la réparer l'on recourut à des mesures plus efficaces, ah alors, il n'y avait pas assez de prisons, pas assez de maisons centrales, pas assez de bagnes pour enfermer les gens que condamnaient, de bonne foi du reste, d'autres individus qui, le soir même, dans le lit conjugal, trichaient de leur mieux pour ne pas enfanter des mômes. La supercherie elle-même n'était donc pas un crime, mais la réparation de cette supercherie en était un. En somme, pour la société, était réputé crime l'acte qui consistait à tuer un être doué de vie. Et cependant, en expulsant un fœtus, on détruisait un animal moins formé, moins vivant, et à coup sûr moins intelligent et plus laid qu'un chien ou qu'un chat, qu'on peut se permettre impunément d'étrangler dès sa naissance. Il est bon d'ajouter, pensaient des esseintes, que, pour plus d'équité, ce n'est point l'homme maladroit qui s'empresse généralement de disparaître, mais bien la femme, victime de la maladresse, qui expie le forfait d'avoir sauvé de la vie un innocent. Fallait-il tout de même que le monde fût rempli de préjugés pour vouloir réprimer des manœuvres si naturelles que l'homme primitif, que le sauvage de la Polynésie, est amené à les pratiquer par le fait de son seul instinct? Le domestique interrompit les charitables réflexions que ruminait des esseintes en lui apportant sur un plat de vermeil la tartine qu'il avait souhaitée. Un haut de cœur le tordit. Il n'eut pas le courage de mordre ce pain, car l'excitation malative de l'estomac avait cessé. Une sensation de délabrement affreux lui revenait. Il dut se lever. Le soleil tournait et gagnait peu à peu sa place. La chaleur devenait à la fois plus pesante et plus active. « Jetez cette tartine, dit-il au domestique, à ces enfants qui se massacrent sur la route. Que les plus faibles soient estropiés, n'aient pas aucun morceau, et soient le plus rossé d'importance par leur famille quand ils rentreront chez elles les culottes déchirées, les yeux meurtris. Cela leur donnera un aperçu de la vie qui les attend. » Et il rejoignit sa maison et s'affaissa défaillant dans un fauteuil. « Il faut pourtant que j'essaye de manger un peu, » se dit-il. Et il tenta de tremper un biscuit dans un vieux Constantia de Jean-Paul Coët, dont il lui restait en cave quelques bouteilles. Ce vin, couleur de pelure d'oignon, un tantinet brûlé, tenant du Malaga rassis et du Porto, mais avec un bouquet sucré, spécial, et un arrière-goût de raisin au sucre condensé et sublimé par d'ardents soleils, l'avait parfois réconforté, et souvent même avait infusé une énergie nouvelle à son estomac, affaibli par les jeûnes forcés qu'il subissait. Mais ce cordial, d'ordinaire si fidèle, échoua. Alors, il espéra qu'un émollient refroidirait peut-être les fers chauds qui le brûlaient, et il recourut au Nalivka, une liqueur russe, contenu dans une bouteille glacée d'or mat. Ce sirop onctueux et framboisé fut, lui aussi, inefficace. Hélas, le temps était loin où, jouissant d'une bonne santé, des essaintes montaient chez lui en pleine canicule dans un traîneau et là, enveloppé de fourrure, les ramenant sur sa poitrine, s'efforçait de grelotter, se disait-il, en s'étudiant à claquer des dents. Ah! Ce vent est glacial, mais on gêne ici, on gèle. Parvenait presque à se convaincre qu'il faisait froid. Ces remèdes n'agissaient malheureusement plus depuis que ces maux devenaient réels. Il n'avait point avec cela la ressource d'employer le laudanum. Au lieu de l'apaiser, ce calmant l'irritait jusqu'à le priver de repos. Jadis, il avait voulu se procurer avec l'opium et le haschich des visions, mais ces deux substances avaient amené des vomissements et des perturbations nerveuses intenses. Il avait dû tout aussitôt renoncer à les absorber et, sans le secours de ces grossiers excitants, demander à sa cervelle seule de l'emporter loin de la vie dans les rêves. « Quelle journée !» se disait-il maintenant, s'épongeant le cou, sentant ce qui pouvait lui rester de force se dissoudre en de nouvelles sueurs. Une agitation fébrile l'empêchait encore de demeurer en place. Une fois de plus, il errait au travers de ses pièces, essayant les uns après les autres tous les sièges. De guerre lasse, il finit par s'abattre devant son bureau et appuyer sur la table machinalement, sans songer à rien. Il mania un astrolabe placé en guise de presse-papier sur un amas de livres et de notes. Il avait acheté cet instrument en cuivre gravé et doré, d'origine allemande et datant du XVIIe siècle, chez un brocanteur de Paris, après une visite au musée de Cluny, où longuement il s'était pâmé devant un merveilleux astrolabe en ivoire ciselé, dont l'allure cabalistique l'avait ravi. Ce presse-papier remua en lui tout un essaim de réminiscence. Déterminé et ému par l'aspect de ce joyau, sa pensée partit de Fontenay pour Paris, chez le bric-à-brac qu'il avait vendu, puis rétrograda jusqu'au musée des Thermes, et mentalement, il revit l'astrolabe d'ivoire, alors que ses yeux continuaient à considérer, mais sans plus le voir, l'astrolabe de cuivre sur sa table. Puis il sortit du musée et, sans quitter la ville, flâna en chemin, vagabonda par la rue du Sommerard et le boulevard Saint-Michel, s'embrancha dans les rues avoisinantes et s'arrêta devant certaines boutiques dont la fréquence et dont la tenue toute spéciale l'avait maintes fois frappé. Commencé à propos d'un astrolabe, ce voyage spirituel aboutissait au caboulot du quartier latin. Il se rappelait la foison de cet établissement dans toute la rue Monsieur le Prince et dans ce bout de la rue de Vaugirard qui touche à l'Odéon. Parfois, il se suivait, ainsi que les anciennes ridec de la rue du Canal aux Harengs d'Anvers, s'étalait à la queue le surmontant les trottoirs de devantures presque semblables. Au travers des portes entrouvertes et des fenêtres mal obscurcies par des carreaux de couleur ou par des rideaux, il se souvenait d'avoir entrevu des femmes qui marchaient en se traînant et en avançant le cou comme font les oies. D'autres, prostrés sur des banquettes, usaient leurs coudes au marbre des tables et ruminaient en chantonnant les tempes entre les poings. D'autres encore se dandinaient devant des glaces en pianotant du bout des doigts leurs faux cheveux lustrés par un coiffeur. D'autres enfin tiraient d'escarcelles au ressort dérangé des piles de pièces blanches et de sous qu'elles alignaient méthodiquement des petits tas. La plupart avaient des traits massifs, des voix enrouées, des gorges molles et des yeux peints, et toutes, pareilles à des automates remontés à la fois par la même clé, lançaient du même ton les mêmes invités, débitaient avec le même sourire les mêmes propos biscornus, les mêmes réflexions baroques. Des associations d'idées se formaient dans l'esprit de Des Esseintes, qui arrivait à une conclusion, maintenant qu'il embrassait par le souvenir, à vol d'oiseau, ces tas d'estaminets de rue. Il comprenait la signification de ces cafés qui répondaient à l'état d'âme d'une génération tout entière, et il en dégageait la synthèse de l'époque. Et en effet, les symptômes étaient manifestes et certains. Les maisons de tolérance disparaissaient, et à mesure que l'une d'elles se fermait, un caboulot opérait son ouverture. Cette diminution de la prostitution soumise au profit des amours clandestines résidait évidemment dans les incompréhensibles illusions des hommes au point de vue charnel. Si monstrueux que cela pût paraître, le caboulot satisfaisait un idéal. Bien que les penchants utilitaires transmis par l'hérédité et développés par les précoces impolitesses et les constantes brutalités des collèges eussent rendu la jeunesse contemporaine singulièrement mal élevée et aussi singulièrement positive et froide, elle n'en avait pas moins gardé au fond du cœur une vieille fleur bleue, un vieil idéal d'une affection rance et vague. Et aujourd'hui, quand le sang la travaillait, elle ne pouvait se résoudre à entrer, à consommer, à payer et à sortir. C'était à ses yeux de la bestialité, du rut de chien couvrant sans préambule une chienne. Puis la vanité fuyait, inassouvie, de ces maisons tolérées où il n'y avait eu ni simulacre de résistance, ni semblant de victoire, ni préférence espérée, ni même de largesse obtenue de la part de la marchande qui aurait ses tendresses suivant les prix. Au contraire, la cour faite à une fille de brasserie ménageait toutes les susceptibilités de l'amour, toutes les délicatesses du sentiment. Celle-là, on se la disputait, et ceux auxquels elle consentait à octroyer, moyennant de copieux salaires, un rendez-vous, s'imaginaient de bonne foi l'avoir emporté sur un rival, être l'objet d'une distinction honorifique, d'une faveur rare. Cependant, cette domesticité était aussi bête, aussi intéressée, aussi vile et aussi repue que celle qui desservait les maisons à numéros. Comme elle, elle buvait sans soif, riait sans motif, raffolait des caresses d'un blousier, s'insultait et se crêpait le chignon, sans cause. Malgré tout, depuis le temps, la jeunesse parisienne ne s'était pas encore aperçue que les bonnes des caboulots étaient au point de vue de la beauté plastique, au point de vue des attitudes savantes et des atours nécessaires, bien inférieurs aux femmes enfermées dans les salons de luxe. « Mon Dieu !» se disaient Des Esseintes, « qui sont donc godiches, ces gens qui papillonnent autour des brasseries ? Car en sus de leurs ridicules illusions, ils en viennent même à oublier le péril ne les a pas dégradés et suspectes, à ne plus tenir compte de l'argent dépensé dans un nombre de consommations tarifées d'avance par la patronne, et du temps perdu à attendre une livraison différée pour en augmenter le prix. » Des atermoiements répétés pour décider et activer le jeu des pourboires. Ce sentimentalisme imbécile, combiné avec une férocité pratique, représentait la pensée dominante du siècle. Ces mêmes gens, qui auraient éborgné leur prochain pour gagner 10 sous, perdaient toute lucidité, tout flair devant ces louches cabaretières qui les harcelaient sans pitié, les rançonnaient sans trêve. Des industries travaillaient, des familles se grugeaient entre elles, sous prétexte de commerce, afin de se laisser chiper de l'argent par leurs fils, qui se laissaient à leur tour escroquer par ces femmes, que dépouillaient en dernier ressort les amants de cœur. Dans tout Paris, de l'est à l'ouest et du nord au sud, c'était une chaîne ininterrompue de carottes, un carambolage de vols organisés qui se répercutait de proche en proche, et tout cela parce qu'au lieu de contenter les gens tout de suite, on savait les faire patienter et les faire attendre. Au fond, le résumé de la sagesse humaine consistait à traîner les choses en longueur, à dire non, puis enfin oui, car l'on se maniait vraiment les générations qu'en les lanternant. Ah, s'il en était de même de l'estomac, soupira des Essaintes, tordu par une crampe qui ramenait vivement son esprit égaré au loin, à Fontenay. Chapitre 14. Qu'un cas, quelques jours s'écoulèrent, grâce à des ruses qui réussirent à leurrer la défiance de l'estomac, mais un matin, les marinades qui masquaient l'odeur de graisse et le fumet de sang des viandes ne furent plus acceptées, et des Essaintes anxieux se demanda si sa faiblesse, déjà grande, n'allait pas s'accroître et l'obliger à garder le lit. Une lueur jaillit soudain dans sa détresse. Il se rappela que l'un de ses amis, jadis bien malade, était parvenu à l'aide d'un sustenteur à enrayer l'anémie, à maintenir le dépérissement, à conserver son peu de force. Il dépêcha son domestique à Paris à la recherche de ce précieux instrument et, d'après le prospectus que le fabricant y joignit, il enseigna lui-même à la cuisinière la façon de couper le rosbif en petits morceaux, de le jeter à sec dans cette marmite d'étain avec une tranche de poireaux et de carottes, puis de visser le couvercle et de mettre le tout bouillir au bain-marie pendant 4 heures. Au bout de ce temps, on pressait les filaments et l'on buvait une cuillerée du jus bourbeux et salé déposé au fond de la marmite. Alors on sentait comme une tiède moelle, comme une caresse veloutée, descendre. Cette essence de nourriture arrêtait les tiraillements, les nausées du vide, incitait même l'estomac qui ne se refusait pas à accepter quelques cuillerées de soupe. Grâce à ce sustenteur, la névrose stationna et des Essaintes se dit « C'est toujours autant de gagner ». Peut-être que la température changera, que le ciel versera un peu de cendre sur cet exécrable soleil qui m'épuise, et que j'atteindrai ainsi, sans trop d'encombre, les premiers brouillards et les premiers froids. Dans cet engourdissement, dans cet ennui désœuvré où il plongeait, sa bibliothèque, dont le rangement demeurait inachevé, l'agaça. Ne bougeant plus de son fauteuil, il avait constamment sous les yeux ses livres profanes posés de guingois sur les tablettes, empiétant les uns sur les autres, s'étayant entre eux ou gisant, de même que les capucins de cartes, sur le flanc à plat. Ce désordre le choqua d'autant plus qu'il contrastait avec le parfait équilibre des œuvres religieuses soigneusement aligné à la parade le long des murs. Il tenta de faire cesser cette confusion, mais après 10 minutes de travail, des sueurs l'inondèrent. Cet effort l'épuisait. Il fut s'étendre brisé sur un divan et il sonna son domestique. Sur ses indications, le vieillard se mit à l'œuvre, lui apportant un à un les livres qu'il examinait et dont il désignait la place. Cette besogne fut de courte durée, car la bibliothèque de Des Essaintes ne renfermait qu'un nombre singulièrement restreint d'œuvres laïques contemporaines. À force de les avoir passées dans son cerveau comme on passe des bandes de métal dans une filière d'acier d'où elles sortent ténues, légère, presque réduite en d'imperceptibles fils, il avait fini par ne plus posséder de livres qui résistassent à un tel traitement et fussent assez solidement trempées pour supporter le nouveau laminoir d'une lecture. À avoir ainsi voulu raffiner, il avait restreint et presque stérilisé toute jouissance, en accentuant encore l'irrémédiable conflit qui existait entre ses idées et celles du monde où le hasard l'avait fait naître. Il était arrivé maintenant à ce résultat qu'il ne pouvait plus découvrir un écrit qui contentât ses secrets désirs, et même son admiration se détachait des volumes qui avaient certainement contribué à lui aiguiser l'esprit, à le rendre aussi soupçonneux et aussi subtil. En art, ses idées étaient pourtant parties d'un point de vue simple. Pour lui, les écoles n'existaient point. Seul le tempérament de l'écrivain importait. Seul le travail de sa cervelle intéressait quel que fût le sujet qu'il aborda. Malheureusement, cette vérité d'appréciation digne de la Palice était à peu près inexplicable et inapplicable par ce simple motif que tout en désirant se dégager des préjugés, s'abstenir de toute passion, chacun va de préférence aux œuvres qui correspondent le plus intimement à son propre tempérament et finit par reléguer en arrière toutes les autres. Ce travail de sélection s'était lentement opéré en lui. Il avait naguère adoré le grand Balzac, mais en même temps que son organisme s'était déséquilibré, que ses nerfs avaient pris le dessus, ses inclinations s'étaient modifiées et ses admirations avaient changé. Bientôt même, et quoiqu'il se rendît compte de son injustice envers le prodigieux auteur de la comédie humaine, il en était venu à ne plus ouvrir ses livres, dont l'art valide le froissait. D'autres aspirations l'agitaient maintenant, qui devenaient en quelque sorte indéfinissables. En se sondant bien néanmoins, il comprenait d'abord que, pour l'attirer, une œuvre devait revêtir ce caractère d'étrangeté que réclamait Edgar Poe, mais il s'aventurait volontiers plus loin sur cette route et appelait des flores byzantines de cervelle et des déliquescences compliquées de langue. Il souhaitait une indécision troublante sur laquelle il put rêver jusqu'à ce qu'il la fît à sa volonté plus vague ou plus ferme selon l'état momentané de son âme. Il voulait en somme une œuvre d'art et pour ce qu'elle était par elle-même et pour ce qu'elle pouvait permettre de lui prêter. Il voulait aller avec elle, grâce à elle, comme soutenu par un adjuvant, comme porté par un véhicule, dans une sphère où des sensations sublimées lui imprimeraient une commotion inattendue et dont il chercherait longtemps et même vainement à analyser les causes. Enfin, depuis son départ de Paris, il s'éloignait de plus en plus de la réalité et surtout du monde contemporain qu'il tenait en une croissante horreur. Cette haine avait forcément agi sur ses goûts littéraires et artistiques, et il se détournait le plus possible des tableaux et des livres dont les sujets délimités se reléguaient dans la vie moderne. Aussi, perdant la faculté d'admirer indifféremment la beauté sous quelque forme qu'elle se présente, préférait-il, chez Flaubert, la tentation de Saint-Antoine à l'éducation sentimentale, chez de Goncourt, la Faustin à Germini Lacerteux, chez Zola, la faute de l'abbé Mouret à l'Assommoir. Ce point de vue lui paraissait logique. Ses œuvres, moins immédiates mais aussi vibrantes, aussi humaines, le faisaient pénétrer plus loin dans le tréfonds du tempérament de ses maîtres qui livraient avec un peu plus sincère abandon les élans les plus mystérieux de leur être, et elle l'enlevait lui aussi plus haut que les autres, hors de cette vie triviale dont il était si las. Puis il entrait avec elle en complète communion d'idées avec les écrivains qui les avaient conçus, parce qu'il s'était alors trouvé dans une situation d'esprit analogue à la sienne. En effet, lorsque l'époque où un homme de talent est obligé de vivre est plate et bête, l'artiste est, à son insu même, hanté par la nostalgie d'un autre siècle. Ne pouvant s'harmoniser qu'à de rares intervalles avec le milieu où il évolue, ne découvrant plus dans l'examen de ce milieu des créatures qui le subissent des jouissances d'observation et d'analyse suffisantes à le distraire, il sent sourdre et éclore en lui de particuliers phénomènes. De confus désirs de migration se lèvent, qui se débrouillent dans la réflexion et dans l'étude. Les instincts, les sensations, les penchants légués par l'hérédité se réveillent, se déterminent, s'imposent avec une impérieuse assurance. Il se rappelle des souvenirs d'êtres et de choses qu'il n'a pas personnellement connus, et il vient un moment où il s'évade violemment du pénitencier de son siècle, érodant toute liberté, dans une autre époque avec laquelle, par une dernière illusion, il lui semble qu'il eût été mieux en accord. Chez les uns, c'est un retour aux âges consommés, aux civilisations disparues, aux temps morts. Chez les autres, c'est un élancement vers le fantastique et vers le rêve. C'est une vision plus ou moins intense d'un temps à éclore, dont l'image reproduit, sans qu'il le sache, par un effort d'atavisme, celle des époques révolues. Chez Flaubert, c'étaient des tableaux solennels et immenses, des pompes grandioses dans le cadre barbare et splendide, desquelles gravitaient des créatures palpitantes et délicates, mystérieuses et hautaines, des femmes pourvues dans la perfection de leur beauté, d'âmes en souffrance, au fond desquelles il discernait d'affreux détraquements, de folles aspirations, désolées qu'elles étaient déjà par la menaçante médiocrité des plaisirs qui pouvaient naître. Tout le tempérament du grand artiste éclatait en ces incomparables pages de la Tentation de Saint-Antoine et de Salammbô, où, loin de notre vie mesquine, il évoquait les éclats asiatiques des vieux âges, leurs éjaculations et leurs abattements mystiques, leurs démences oisives, leur férocité commandée par ce lourd ennui qui découle avant même qu'on les ait épuisés de l'opulence et de la prière. Chez de Goncourt, c'était la nostalgie du siècle précédent, un retour vers les élégances d'une société à jamais perdue. Le gigantesque décor des mers battant des môles, des déserts se déroulant à perte de vue sous le torride firmament, n'existait pas dans son œuvre nostalgique, qui se confinait près d'un parc aulique dans un boudoir attiédi par les voluptueuses effluves d'une femme au sourire fatigué, à la moue perverse, aux prunelles irrésignées et pensives. L'âme dont il animait ses personnages n'était plus cette âme insufflée par Flaubert à ses créatures, cette âme révoltée d'avance par l'inexorable certitude qu'aucun bonheur nouveau n'était possible. C'était une âme révoltée après coup par l'expérience de tous les inutiles efforts qu'elle avait tentés pour inventer des liaisons spirituelles plus inédites et pour remédier à cette immémoriale jouissance qui se répercute de siècles en siècles dans l'assouvissement plus ou moins ingénieux des couples. Bien qu'elle vécût parmi nous et qu'elle fût bien et de vie et de corps de notre temps, la Faustin était, par les influences ancestrales, une créature du siècle passé, dont elle avait les épices d'âme, la lassitude cérébrale, l'excédement sensuel. Ce livre d'Edmond de Goncourt était l'un des volumes les plus caressés par des essaims. Et en effet, cette suggestion au rêve qu'il réclamait débordait de cette œuvre où, sous la ligne écrite, perçait une autre ligne visible à l'esprit seul, indiquée par un qualificatif qui ouvrait des échappées de passion, par une réticence qui laissait deviner des infinies d'âmes qu'aucun idiome n'eût pu combler. Puis ce n'était plus la langue de Flaubert, cette langue d'une inimitable magnificence. C'était un style perspicace et morbide, nerveux et retors, diligent à noter l'impalpable impression qui frappe les sens et détermine la sensation. Un style expert à moduler les nuances compliquées d'une époque qui était par elle-même singulièrement complexe. En somme, c'était le verbe indispensable aux civilisations décrépites qui, pour l'expression de leurs besoins, exigent, à quelque âge qu'elles se produisent, des acceptions, des tournures, des fontes nouvelles et de phrases et de mots. À Rome, le paganisme mourant avait modifié sa prosodie, transmué sa langue avec Ausone, avec Claudien, avec Rutilus, dont le style attentif et scrupuleux, capiteux et sonnant, présentait, surtout dans ses parties descriptives de reflets d'ombre, de nuances, une nécessaire analogie avec le style des de Goncourt. À Paris, un fait unique dans l'histoire littéraire s'était produit. Cette société agonisante du XVIIIe siècle, qui avait eu des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des architectes, pénétrés de ses goûts, imbus de ses doctrines, n'avait pu façonner un réel écrivain qui rendît ses élégances moribondes, qui exprima le suc de ses joies fébriles si durement expiées. Il avait fallu attendre l'arrivée des de Goncourt, dont le tempérament était fait de souvenirs, de regrets avivés encore par le douloureux spectacle de la misère intellectuelle et des basses aspirations de son temps, pour que non seulement dans ses livres d'histoire, mais encore dans une œuvre nostalgique comme la Faustin, il put ressusciter l'âme même de cette époque, incarner ses nerveuses délicatesses dans cette actrice et si tourmentée à se presser le cœur et à s'exacerber le cerveau, afin de savourer jusqu'à l'épuisement les douloureux révulsifs de l'amour et de l'art. Chez Zola, la nostalgie des au-delà était différente. Il n'y avait en lui aucun désir de migration vers les régimes disparus, vers les univers égarés dans la nuit des temps. Son tempérament puissant, solide, épris des luxuriances de la vie, des forces sanguines, des santé morales, le détournait des grâces artificielles et des chloroses fardées du dernier siècle, ainsi que de la solennité hiératique, de la férocité brutale et des rêves efféminés et ambigus du vieil Orient. Le jour où, lui aussi, il avait été obsédé par cette nostalgie, par ce besoin qui est en somme la poésie même, de fuir loin de ce monde contemporain qu'il étudiait, il s'était rué dans une idéale campagne où la sève bouillait au plein soleil. Il avait songé à de fantastiques rudes de ciel, à de longues pavoisons de terre, à de fécondantes pluies de pollen tombant dans les organes haletants des fleurs. Il avait abouti à un panthéisme gigantesque, avait, à son insu peut-être, créé avec ce milieu édénique où il plaçait son Adam et son Ève, un prodigieux poème hindou, célébrant en un style dont les larges teintes plaquées à cru avaient comme un bizarre éclat de peinture indienne, l'hymne de la chair, la matière animée vivante, révélant par sa fureur de génération à la créature humaine le fruit défendu de l'amour, ses suffocations, ses caresses instinctives, ses naturelles poses. Avec Baudelaire, ces trois maîtres étaient dans la littérature française moderne et profane ceux qui avaient le mieux interné et le mieux pétri l'esprit des Deux-Saintes, mais à force de les relire, de s'être saturé de leurs œuvres, de les savoir par cœur tout entière, il avait dû, afin de les pouvoir absorber encore, s'efforcer de les oublier et les laisser pendant quelque temps sur ses rayons, au repos. Aussi les ouvrait-il à peine, maintenant que le domestique les lui tendait. Ils se bornaient à indiquer la place qu'elles devaient occuper, veillant à ce qu'elles fussent classées en bon ordre et à l'aise. Le domestique lui apporta une nouvelle série de livres. Ceux-ci le primèrent davantage. C'étaient des livres vers lesquels son inclination s'était peu à peu portée, des livres qui le délassaient de la perfection des écrivains du plus vaste encolure par leurs défauts mêmes. Ici encore, à avoir voulu raffiner, Des Esseintes était arrivé à chercher parmi de troubles pages des phrases dégageant une sorte d'électricité qui le faisait tressaillir alors qu'elles déchargeaient leur fluide dans un milieu qui paraissait tout d'abord réfractaire. L'imperfection même lui plaisait, pourvu qu'elle ne fût ni parasite ni servile, et peut-être y avait-il une dose de vérité dans sa théorie que l'écrivain subalterne de la décadence, que l'écrivain encore personnel mais incomplet, alambique un baume plus irritant, plus apéritif, plus acide que l'artiste de la même époque qui est vraiment grand, vraiment parfait. À son avis, c'était parmi leurs turbulentes ébauches que l'on apercevait les exaltations de la sensibilité les plus suraiguës, les caprices de la psychologie les plus morbides, les dépravations les plus outrées de la langue sommées dans ses derniers refus de contenir, d'enrober les sels effervescents des sensations et des idées. Aussi, forcément, après les maîtres, s'adressait-il à quelques écrivains que lui rendait encore plus propice et plus cher le mépris dans lequel les tenait un public incapable de les comprendre. L'un d'eux, Paul Verlaine, avait jadis débuté par un volume de vers, les poèmes saturniens, un volume presque débile, où se coudoyaient des pastiches de Le Comte de Lisle et des exercices de rhétorique romantique, mais où il filtrait déjà, au travers de certaines pièces, telles que le sonnet intitulé « Rêve familier », la réelle personnalité du poète. À chercher ses antécédents, Des Esseintes retrouvait sous les incertitudes des esquisses un talent déjà profondément imbibé de Baudelaire, dont l'influence était plus tard mieux accentuée, sans que néanmoins la sportule consentie par l'indéfectible maître fût flagrante. Puis, d'aucun de ses livres, La bonne chanson, Les fêtes galantes, Romance sans paroles, enfin son dernier volume Sagesse, renfermait des poèmes où l'écrivain original se révélait tranchant sur la multitude de ses confrères. Muni de rimes obtenues par des temps de verbes, quelquefois même par de longs adverbes, précédés d'un monosyllabe d'où il tombait comme du rebord d'une pierre en une cascade pesante d'eau, son vers, coupé par d'invraisemblables césures, devenait souvent singulièrement abstrus avec ses ellipses audacieuses et ses étranges incorrections qui n'étaient point cependant sans grâce. Maniant mieux que pas un la métrique, il avait tenté de rajeunir les poèmes à forme fixe. Le sonnet qu'il retournait, la queue en l'air, de même que certains poissons japonais en terre polychrome qui posent sur leur socle, les ouïes en bas, ou bien il le dépravait en accouplant que des rimes masculines pour lesquelles il semblait éprouver une affection. Il avait également et souvent usé d'une forme bizarre, d'une strophe de trois vers, dont le médian restait privé de rime, et d'un tercet monorime, suivi d'un unique vers jeté en guise de refrain et se faisant écho avec lui-même, tel que les strits dans son lagigue. Il avait employé d'autres rythmes encore où le timbre presque effacé ne s'entendait plus que dans les strophes lointaines, comme un son éteint de cloche. Mais sa personnalité résidait surtout en ceci, qu'il avait pu exprimer de vagues et délicieuses confidences à mi-voix au crépuscule. Seul, il avait pu laisser deviner certains au-delà troublants d'âme, des chuchotements si bas de pensée, des aveux si murmurés, si interrompus, que l'oreille qui les percevait demeurait hésitante, coulant à l'âme des langueurs avivées par le mystère de ce souffle plus deviné que senti. Tout l'accent de Verlaine était dans ces adorables vers des fêtes galantes. Le soir tombait, un soir équivoque d'automne, les belles, cependant rêveuses à des bras, dirent alors des mots si spécieux tout bas, que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne. Ce n'était plus l'horizon immense, ouvert par les inoubliables portes de Baudelaire, c'était, sous un clair de lune, une fente entrebâillée sur un champ plus restreint et plus intime, en somme particulier à l'auteur, qui avait du reste en ses vers, dont Des Essais est effrayant, formulé son système poétique. Car nous voulons la nuance encore, pas la noueur, rien que la nuance, et tout le reste est littérature. Volontiers, Des Essais l'avait accompagné dans ses œuvres les plus diverses. Après ses « Romances sans parole » parues dans l'imprimerie d'un journal à Sens, Verlaine s'était assez longuement tu, puis en des vers charmants où passait l'accent doux et transi de Villon, il avait reparu, chantant la Vierge, loin de nos jours d'esprit charnel et de chair triste. Et Des Essais relisait souvent ce livre de sagesse et se suggérait, devant ses poèmes, des rêveries clandestines, des fictions d'un amour occulte pour une madone byzantine, qui se muait à un certain moment en une cydalise égarée dans notre siècle, et si mystérieuse et si troublante qu'on ne pouvait savoir si elle aspirait à des dépravations tellement monstrueuses qu'elle deviendrait aussitôt accomplie irrésistible, ou bien si elle s'élançait d'elle-même dans le rêve, dans un rêve immaculé, où l'adoration de l'âme flotterait autour d'elle à l'état continuellement inavoué, continuellement pur. D'autres poètes l'incitaient encore à se confier à eux. Tristan Corbière, qui en 1873, dans l'indifférence générale, avait lancé un volume des plus excentriques intitulé « Les amours jaunes ». Des Essais, qui, en haine du banal et du commun, eût accepté les folles les plus appropriées, les extravagances les plus baroques, vivait de légères heures avec ce livre, où le cocasse se mêlait à une énergie désordonnée, où des vers déconcertants éclataient dans des poèmes d'une parfaite obscurité, tels que les litanies du sommeil, qu'il qualifiait à un certain moment d'obscène confesseur des dévotes mort-nées. C'était à peine français. L'auteur parlait nègre, procédait par un langage de télégramme, abusait des suppressions de verbes, affectait une gouaillerie, se livrait à des colibets de commis-voyageurs insupportables, puis tout à coup, dans ce fouillis, se tortillaient des concettis falots, des minauderies interlopes, et soudain jaillissait un cri de douleur aigu comme une corde de violoncelle qui se brise. Avec cela, dans ce style rocailleux, sec, décharné à plaisir, hérissé de vocables inusités, de néologismes inattendus, fulguraient des trouvailles d'expression, des vers nomades amputés de leurs rimes superbes. Enfin, en sus de ces poèmes parisiens où Des Essais relevaient cette profonde définition de la femme, éternel féminin de l'éternel jocrisse, Tristan Corbière avait en un style d'une concision presque puissante célébré la mer de Bretagne, les sérails marins, le pardon de Sainte-Anne. Il s'était même élevé jusqu'à l'éloquence de la haine dans l'insulte dont il abreuvait à propos du camp de Gonly les individus qu'il désignait sous le nom de « forains du 4 septembre ». Ce faisant d'âge dont il était gourmand et que lui présentait ce poète, aux épithètes crispées, aux beautés qui demeuraient toujours à l'état un peu suspect, Des Esseintes le retrouvait encore dans un autre poète, Théodore Annon, un élève de Baudelaire et de Gautier, mû par un sens très spécial des élégances recherchées et des joies factices. À l'encontre de Verlaine, qui dérivait sans croisement de Baudelaire, surtout par le côté psychologique, par la nuance captieuse de la pensée, par la docte quintessence du sentiment, Théodore Annon descendait du maître, surtout par le côté plastique, par la vision extérieure des êtres et des choses. Sa corruption charmante correspondait fatalement au penchant de Des Esseintes, qui, par les jours de brume, par les jours de pluie, s'enfermait dans le retrait imaginé par ce poète et se grisait les yeux avec les chatoiements de ses étoffes, avec les incandescences de ses pierres, avec ses somptuosités exclusivement matérielles qui concouraient aux incitations cérébrales et montaient comme une poudre de cantharide dans un nuage de tiède encens vers une idole bruxelloise au visage fardé, au ventre tanné par des parfums. À l'exception de ses poètes et de Stéphane Mallarmé, qu'il enjoignit à son domestique de mettre de côté pour le classer à part, Des Esseintes n'était que bien faiblement attiré par les poètes. En dépit de sa forme magnifique, en dépit de l'imposante allure de ses vers qui se dressaient avec un tel éclat que les hexamètres d'Hugo même semblaient en comparaison mornes et sourds, le comte de Lille ne pouvait plus maintenant le satisfaire. L'Antiquité, si merveilleusement ressuscitée par Flaubert, restait entre ses mains immobiles et froides. Rien ne palpitait dans ses vers tout en façade, que n'étayait, la plupart du temps, aucune idée. Rien ne vivait dans ces poèmes déserts dont les impassibles mythologies finissaient par le glacer. D'autre part, après l'avoir longtemps choyé, Des Esseintes arrivait aussi à se désintéresser de l'œuvre de Gautier. Son admiration pour l'incomparable peintre qu'était cet homme était allée en se dissolvant de jour en jour, et maintenant il demeurait plus étonné que ravi par ses descriptions en quelque sorte indifférentes. L'impression des objets s'était fixée sur son œil si perceptif, mais elle s'y était localisée, n'avait pas pénétré plus avant dans sa cervelle et dans sa chair. De même qu'un prodigieux réflecteur, il s'était constamment borné à reverbérer avec une impersonnelle netteté des alentours. Certes, Des Esseintes aimait encore les œuvres de ces deux poètes, ainsi qu'il aimait les pierres rares, les matières précieuses et mortes, mais aucune des variations de ces parfaits instrumentistes ne pouvait plus l'extasier, car aucune n'était ductile au rêve, aucune n'ouvrait pour lui, du moins, l'une de ces vivantes échappées qui lui permettaient d'accélérer le volant des heures. Il sortait de leurs livres à jeun, et il en était de même de ceux d'Hugo. Le côté Orient et Patriarche était trop convenu, trop vide pour le retenir, et le côté tout à la fois bon enfant et grand-père l'exaspérait. Il lui fallait arriver aux chansons des rues et des bois pour ennir devant l'impeccable jonglerie de sa métrique, mais combien, en fin de compte, il eût échangé tous ses tours de force pour une nouvelle œuvre de Baudelaire, qui fut l'égale de l'ancienne, car décidément, celui-là était à peu près le seul dont les vers continssent sous leur splendide écorce une balsamique et nutritive moelle. En sautant d'un extrême à l'autre, de la forme privée d'idées aux idées privées de forme, Des Esseintes demeurait non moins circonspect, non moins froid. les labyrinthes psychologiques de Stendhal, les détours analytiques de Duranty le séduisaient, mais leur langue administrative, incolore aride, leur prose en location, tout au plus bonne pour l'ignoble industrie du théâtre, le repoussaient. Puis les intéressants travaux de leurs astucieux démontages s'exerçaient, pour tout dire, sur des cervelles agitées par des passions qui ne les mouvaient plus. Ils se souciaient peu des affections générales, des associations d'idées communes. Maintenant que la rétention de son esprit s'exagérait et qu'il n'admettait plus que les sensations superfines et que les tourmentes catholiques et sensuelles. Afin de jouir d'une œuvre qui joignit, suivant ses vœux, un style incisif, une analyse pénétrante et féline, il lui fallait arriver au maître de l'induction, à ce profond et étrange Edgar Poe, pour lequel, depuis le temps qu'il le relisait, sa dilection n'avait pu déchoir. Plus que tout autre, celui-là peut-être répondait par d'infimes infinités aux postulations méditatives de Des Esseintes. Si Baudelaire avait déchiffré dans les hiéroglyphes de l'âme le retour d'âge des sentiments et des idées, lui avait, dans la voie de la psychologie morbide, plus particulièrement scruté le domaine de la volonté. En littérature, il avait le premier, sous ce titre emblématique, « Le démon de la perversité », épié ces impulsions irrésistibles que la volonté subit sans les connaître et que la pathologie cérébrale explique maintenant d'une façon à peu près sûre. Le premier aussi, il avait, sinon signalé, du moins divulgué, l'influence dépressive de la peur qui agit sur la volonté, de même que les anesthésiques qui paralysent la sensibilité et que le curare qui anéantit les éléments nerveux moteurs. C'était sur ce point, sur cette léthargie de la volonté, qu'il avait fait converger ses études, analysant les effets de ce poison moral, indiquant les symptômes de sa marche, les troubles commençant avec l'anxiété, se continuant par l'angoisse, éclatant enfin dans la terreur qui stupéfie les volitions sans que l'intelligence, bien qu'ébranlée, fléchisse. La mort dont tous les dramaturges avaient tant abusé, il l'avait en quelque sorte aiguisée et rendue autre, en y introduisant un élément algébrique et surhumain. Mais c'était à vrai dire moins l'agonie réelle du moribond qu'il décrivait que l'agonie morale du survivant hanté devant le lamentable lit par les monstrueuses hallucinations qu'engendrent la douleur et la fatigue. Avec une fascination atroce, il s'appesantissait sur les actes de l'épouvante, sur les craquements de la volonté, les raisonnait froidement, serrant peu à peu la gorge du lecteur suffoqué, pantelant devant ses cauchemars mécaniquement agencés de fièvre chaude. Convulsé par d'héréditaires névroses, affolé par des choses immorales, ces créatures ne vivaient que par les nerfs. Ces femmes, les Morella, les Gieia, possédait une érudition immense, trempée dans les brumes de la philosophie allemande et dans les mystères kabbalistiques du Vieil Orient, et toutes avaient des poitrines garçonnières et inertes d'anges, toutes étaient, pour ainsi dire, insexuelles. Baudelaire et Poe, ces deux esprits qu'on avait souvent appariés à cause de leur commune poétique, de leur inclination partagée pour l'examen des maladies mentales, différaient radicalement par les conceptions affectives qui tenaient une si large place dans leurs œuvres. Baudelaire, avec son amour altéré et inique, dont le cruel dégoût faisait songer aux représailles d'une inquisition, et Poe, avec ses amours chastes aériennes, où les sens n'existaient pas, où la cervelle solitaire s'érigeait sans correspondre à des organes qui, s'ils existaient, demeuraient à jamais glacées et vierges. Cette clinique cérébrale où, vivisectant dans une atmosphère étouffante, ce chirurgien spirituel devenait, dès que son attention se lassait, la proie de son imagination qui faisait poudroir comme de délicieuses miasmes des apparitions somnambulesques et angéliques, était pour des esseintes une source d'infatigables conjectures. Mais maintenant que sa névrose s'était exaspérée, il y avait des jours où ses lectures le brisaient, des jours où il restait, les mains tremblantes, l'oreille au guet, se sentant, ainsi que le désolant Usher, envahi par une transe irraisonnée, par une frayeur sourde. Aussi devait-il se modérer, toucher à peine à ces redoutables élixirs, de même qu'il ne pouvait plus visiter impunément son rouge vestibule et s'enivrer la vue des ténèbres de Lydon Redon et des supplices de Jean le Week-end. Et cependant, lorsqu'il était dans ses dispositions d'esprit, toute littérature lui semblait fade après ces terribles filtres importés de l'Amérique. Alors il s'adressait à Villiers de l'Isle-Adam, dans l'œuvre éparse duquel il notait des observations encore séditieuses, des vibrations encore spasmodiques, mais qu'il ne dardait plus, à l'exception de sa claire noire du moins, une si bouleversante horreur. Paru en 1867 dans la Revue des Lettres et des Arts, cette Claire Lenoir ouvrait une série de nouvelles comprises sous le titre générique d'Histoire morose. Sur un fond de spéculations obscures empruntées au vieil Hegel, s'agitaient des êtres démantibulés, un docteur Tribula Bonhomé, solennel et puéril, une Claire Lenoir, farce et sinistre, avec les lunettes bleues rondes et grandes comme des pièces de 100 sous, qui couvraient ses yeux à peu près morts. Cette nouvelle roulait sur un simple adultère et concluait un indicible effroi, alors que Bonhomé, déployant les prunelles de Claire à son lit de mort, et les pénétrant avec de monstrueuses sondes, apercevait distinctement réfléchi le tableau du mari qui brandissait au bout du bras la tête coupée de l'amant en hurlant tel qu'un canaque un chant de guerre. Basé sur cette observation plus ou moins juste, que les yeux de certains animaux, des bœufs par exemple, conservent jusqu'à la décomposition, de même que des plaques photographiques, l'image des êtres et des choses situées au moment où ils expiraient sous leur dernier regard, ce conte dérivait évidemment de ceux d'Edgar Poe dont il s'appropriait la discussion pointilleuse et l'épouvante. Il en était de même de l'intersigne qui avait été plus tard réuni au Conte cruel, un recueil d'un indiscutable talent dans lequel se trouvait Vera, une nouvelle que des Esseintes considéraient ainsi qu'un petit chef-d'œuvre. Ici, l'hallucination était empreinte d'une tendresse exquise. Ce n'étaient plus les ténébreux mirages de l'auteur américain, c'était une vision tiède et fluide, presque céleste. C'était, dans un genre identique, le contre-pied des Béatrice et des Ligeia, ces mornes et blancs fantômes engendrés par l'inexorable cauchemar du noir opium. Cette nouvelle mettait aussi en jeu les opérations de la volonté, mais elle ne traitait plus de ses affaiblissements et de ses défaites sous l'effet de la peur. Elle étudiait au contraire ses exaltations sous l'impulsion d'une conviction tournée à l'idée fixe. Elle démontrait sa puissance qui parvenait même à saturer l'atmosphère, imposer sa foi aux choses ambiantes. Un autre livre de Villiers, Isis, lui semblait curieux à d'autres titres. Le fatras philosophique de Claire Lenoir obstruait également celui-là, qui offrait un incroyable tohu-bohu d'observations verbeuses et troubles et de souvenirs de vieux mélodrames, d'oubliettes, poignards, d'échelles de cordes, de tous ces ponts neufs romantiques que Villiers ne devait point rajeunir dans son Hélène, dans sa Morgane, des pièces oubliées et éditées chez un inconnu, le sieur Francisque Guyon, imprimeur à Saint-Brieuc. L'héroïne de ce livre, une marquise Tullia Fabriana, qui était censée s'être assimilée la science chaldéenne des femmes d'Edgar Poe et les sagacités diplomatiques de la San Severina Taxis de Stendhal, s'était en sus composée l'énigmatique contenance d'une bradamante matinée d'une Circé antique. Ces mélanges insolubles développaient une vapeur fuligineuse au travers de laquelle les influences philosophiques et littéraires se bousculaient sans avoir pu s'ordonner dans le cerveau de l'auteur au moment où il écrivait les prolégomènes de cette œuvre qui ne devait pas comprendre moins de 7 volumes. Mais dans le tempérament de Villiers, un autre coin, bien autrement perçant, bien autrement net, existait. Un coin de plaisanterie noire et de raillerie féroce. Ce n'était plus alors les paradoxales mystifications d'Edgar Poe. C'était un bafouage d'un comique lugubre, tel qu'en Raja Swift. Une série de pièces, Les Demoiselles de Bienfilâtre, L'Affichage Céleste, La Machine à Gloire, Le Plus Beau Dîner du Monde, décelait un esprit de goguenardise, singulièrement inventif et âcre. Toute l'ordure des idées utilitaires contemporaines, toute l'ignominie mercantile du siècle était glorifiée en des pièces dont la poignante ironie transportait des esseintes. Dans ce genre de la fumisterie grave et acerbe, aucun autre livre n'existait en France. Tout au plus une nouvelle de Charles Cros, La science de l'amour, insérée jadis dans la revue du Monde Nouveau, pouvait-elle étonner par ses folies chimiques, son humour pincé, ses observations froidement bouffonnes, mais le plaisir n'était plus que relatif, car l'exécution péchait d'une façon mortelle. Le style ferme, coloré, souvent original de Villiers avait disparu pour faire place à une rillette raclée sur l'établi littéraire du premier venu. Mon Dieu, qu'il existe encore donc peu de livres qu'on puisse relire, soupira des esseintes, regardant le domestique qui descendait de l'escabelle où il était juché et s'effaçait pour lui permettre d'embrasser d'un coup d'œil tous les rayons. Des esseintes approuva de la tête. Il ne restait plus sur la table que 2 plaquettes. D'un signe, il congédia le vieillard, et il parcourut quelques feuilles reliées en peau d'onagre, préalablement dastinées à la presse hydraulique, pommelées à l'aquarelle de nuées d'argent et nanties de garde de vieux lampas, dont les ramages un peu éteints avaient cette grâce des choses fanées que Mallarmé célébra dans un si délicieux poème. Ces pages, au nombre de 9, étaient extraites d'uniques exemplaires des 2 premiers Parnasses, tirés sur parchemin et précédés de ce titre, « Quelques vers de Mallarmé », dessinés par un surprenant calligraphe en lettres onciales, coloriées, relevées, comme celles des vieux manuscrits de Point d'Or. Parmi les 11 pièces réunies sous cette couverture, quelques-unes, les fenêtres, l'épilogue, Azur, le requéraient. Mais une entre autres, un fragment de l'Hérodiade, le subjuguait, de même qu'un sortilège, à certaines heures. Combien de soirs, sous la lampe éclairant de ces lueurs blessées à la silencieuse chambre, ne s'était-il point senti effleuré par cette Hérodiade qui, dans l'œuvre de Gustave Moreau, maintenant envahie par l'ombre, s'effaçait plus légère, ne laissant plus entrevoir qu'une confuse statue encore blanche dans un brasier éteint de pierre. L'obscurité cachait le sang, endormait les reflets et les ors, enténébrait les lointains du temple, noyait les comparses du crime ensevelis dans leurs couleurs mortes, et, n'épargnant que les blancheurs de l'aquarelle, sortait la femme du fourreau de ses joailleries et la rendait plus nue. Invinciblement, il levait les yeux vers elle, la discernait à ses contours inoubliés, et elle revivait, évoquant sur ses lèvres ces bizarres et doux vers que Mallarmé lui prête. Ô miroir, ô froide par l'ennui dans ton cadre gelé, que de fois et pendant les heures désolées, des songes et cherchant mes souvenirs qui sont comme des feuilles sous ta glace au trou profond, je m'apparus en toi comme une ombre lointaine, mais, horreur des soirs dans ta sévère fontaine, j'ai de mon rêve épars connu la nudité. Oh, ces vers, il les aimait comme il aimait les œuvres de ce poète qui, dans un siècle de suffrage universel et dans un temps de lucre, vivait à l'écart des lettres, abrité de la sottise environnante par son dédain, se complaisant loin du monde aux surprises de l'intellect, aux visions de sa cervelle, raffinant sur des pensées déjà spécieuses, les greffant de finesse byzantine, les perpétuant des déductions légèrement indiquées que reliait à peine un imperceptible fil. Ses idées nattées et précieuses, il les nouait avec une langue adhésive, solitaire et secrète, pleine de rétractations de phrases de tournures elliptiques et d'audacieux tropes. Percevant les analogies les plus lointaines, il désignait souvent d'un terme donnant à la fois, par un effet de similitude, la forme, le parfum, la couleur, la qualité, l'éclat, l'objet ou l'être auquel il eut fallu accoler de nombreuses et de différentes épithètes pour en dégager toutes les faces, toutes les nuances, s'il avait été simplement indiqué par son nom technique. Il parvenait ainsi à abolir l'énoncé de la comparaison qui s'établissait toute seule dans l'esprit du lecteur, par l'analogie dès qu'il avait pénétré le symbole, et il se dispensait d'éparpiller l'attention sur chacune des qualités qu'auraient pu présenter un à un les adjectifs placés à la queue-leu-leu, la concentrait sur un seul mot, sur un tout, produisant, comme pour un tableau par exemple, un aspect unique et complet, un ensemble. Cela devenait une littérature condensée, un coulis essentiel, un sublime édard. Cette tactique, d'abord employée d'une façon restreinte dans ses premières œuvres, Mallarmé l'avait hardiment arborée dans une pièce sur Théophile Gautier et dans l'après-midi du Faune, une églogue où les subtilités des joies sensuelles se déroulaient en des vers mystérieux et câlins que trouvait tout à coup ce cri fauve et délirant du faune. Alors m'éveillerai-je à la faveur première, droit et seul, sous un flot antique de lumière, lisse, et l'un de vous tous pour l'ingénuité. Ce vers qui, avec le monosyllabe lisse en rejet, évoquait l'image de quelque chose de rigide, d'élancé de blanc, sur le sens duquel appuyait encore le substantif « ingénuité » mis à la rime, exprimait allégoriquement en un seul terme la passion, l'effervescence, l'état momentané du faune vierge affolé de rut par la vue des nymphes. Dans cet extraordinaire poème, des surprises d'images nouvelles et invues surgissaient à tout bout de vers, Alors que le poète décrivait les élans, les regrets du chèvre-pied, contemplant sur le bord du marécage les touffes des roseaux gardant encore, en un moule éphémère, la forme creuse des naïades qu'il avait emplies. Puis, des essaintes éprouvaient aussi de captieuses délices à palper cette minuscule plaquette dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche qu'un lait caillé, était fermée par deux cordons de soie, l'un rose de Chine et l'autre noir. Dissimulée derrière la couverture, la tresse noire rejoignait la tresse rose qui mettait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de fard japonais moderne, comme un adjuvant libertin sur l'antique blancheur, sur la candide carnation du livre, et elle l'enlaçait, nouant en une légère rosette sa couleur sombre à la couleur claire, insinuant un discret avertissement de ce regret, une vague menace de cette tristesse qui succède aux transports éteints et aux surexcitations apaisées des sens. Des Essaintes reposa sur la table l'après-midi du faune, et il feuilleta une autre plaquette qu'il avait fait imprimer à son usage, une anthologie du poème en prose, une petite chapelle, placée sous l'invocation de Baudelaire et ouverte sur le parvis de ses poèmes. Cette anthologie comprenait un sélectail du Gaspard de la nuit de ce fantasque Aloysius Bertrand, qui a transféré les procédés du Léonard dans la prose et peint avec ses oxydes métalliques de petits tableaux dont les vives couleurs chatoient ainsi que celles des émaux lucides. Des Essaintes y avait joint le Vox Populi de Villiers, une pièce superbement frappée dans un style d'or, à l'effigie de Lecomte de Lisle et de Flaubert, et quelques extraits de ce délicat livre de jade, dont l'exotique parfum de ginseng et de thé se mêle à l'odorante fraîcheur de l'eau qui babille sous un clair de lune tout le long du livre. Mais dans ce recueil avaient été colligés certains poèmes sauvés de revues mortes, Le démon de l'analogie, la pipe, le pauvre enfant pâle, le spéclac interrompu, le phénomène futur, et surtout, plainte d'automne et frissons d'hiver, qui étaient les chefs-d'œuvre de Mallarmé, et comptaient également parmi les chefs-d'œuvre du poème en prose, car ils unissaient une langue si magnifiquement ordonnée qu'elle berçait par elle-même, ainsi qu'une mélancolique incantation, qu'une enivrante mélodie, à des pensées d'une suggestion irrésistible, à des pulsations d'âme de sensitif, dont les nerfs en émoi vibrent avec une acuité qui vous pénètre jusqu'au ravissement, jusqu'à la douleur. De toutes les formes de la littérature, celle du poème en prose était la forme préférée des Essaintes. Maniée par un alchimiste de génie, elle devait, suivant lui, renfermer dans son petit volume à l'état d'off-bite la puissance du roman dont elle supprimait les longueurs analytiques et les superfétations descriptives. Bien souvent, des Essaintes avaient médité sur cet inquiétant problème. Écrire un roman concentré en quelques phrases qui contiendrait le succorbé des centaines de pages toujours employées à établir le milieu, à dessiner les caractères, entasser à l'appui les observations et les menus faits. Alors, les mots choisis seraient tellement impermutables qu'ils suppléeraient à tous les autres. L'adjectif posé d'une si ingénieuse et d'une si définitive façon qui ne pourrait être légalement dépossédé de sa place ouvrirait de telles perspectives que le lecteur pourrait rêver pendant des semaines entières sur son sens tout à la fois précise et multiple, constaterait le présent, reconstruirait le passé, devinerait l'avenir d'âme des personnages révélés par les lueurs de cette épithète unique. Le roman ainsi conçu, ainsi condensé en une page ou deux, deviendrait une communion de pensées entre un magique écrivain et un idéal lecteur, une collaboration spirituelle consentie entre 10 personnes supérieures éparses dans l'univers, une délectation offerte aux délicats, accessible à eux seuls. En un mot, le poème en prose représentait pour des esseintes le suc concret, l'osmazum de la littérature, l'huile essentielle de l'art. Cette succulence développée et réduite en une goutte, elle existait déjà chez Flaubert et aussi dans ses poèmes de Mallarmé qu'il humait avec une si profonde joie. Quand il eut fermé son autologie, Des Esseintes se dit que sa bibliothèque, arrêtée sur ce dernier livre, ne s'augmenterait probablement jamais plus. En effet, la décadence d'une littérature irréparablement atteinte dans son organisme, affaiblie par l'âge des idées, épuisée par les excès de la syntaxe, sensible seulement aux curiosités qui enfièvrent les malades, et cependant pressée de tout exprimer à son déclin, acharnée à vouloir réparer toutes les omissions de jouissance, à léguer les plus subtils souvenirs de douleur à son lit de mort, s'était incarné en Mallarmé de la façon la plus consommée et la plus exquise. C'était pousser jusqu'à leur dernière expression les quintessences de Baudelaire et de Poe. C'était leurs fines et puissantes substances encore distillées et dégageant de nouveaux fumets, de nouvelles ivresses. C'était l'agonie de la vieille langue qui, après s'être persillé de siècle en siècle, finissait par se dissoudre, par atteindre ce déliquium de la langue latine qui expirait dans les mystérieux concepts et les énigmatiques expressions de Saint Boniface et de Saint Adelme. Au demeurant, la décomposition de la langue française s'était faite d'un coup. Dans la langue latine, une longue transition, un écart de 400 ans, existait entre le verbe tacheté et superbe de Claudien et de Rutilius et le verbe faisandé du 8e siècle. Dans la langue française, aucun laps de temps, aucune succession d'âges n'avait eu lieu. Le style tacheté et superbe des deux Goncourt et le style faisandé de Verlaine et de Mallarmé se coudoyaient à Paris, vivant en même temps, à la même époque, au même siècle. Et Des Esseintes sourit, regardant l'un des in-folios ouverts sur son pupitre de chapelle, pensant que le moment viendrait où un érudit préparerait pour la décadence de la langue française un glossaire pareil à celui dans lequel le savant Ducange a noté les dernières balbuties, les derniers spasmes, les derniers éclats de la langue latine, râlant de vieillesse au fond des cloîtres.